Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, Voyage en Turquie antique est le titre de cette émission et celui d'un livre paru cette année chez Actes Sud. Les textes de cet ouvrage sont dus à Jacques de Courty et Sébastien de Courtois, avec les aquarelles de Jean-Claude Golvin et les photographies de Ferrante Ferranti qui est avec nous pour en parler. Ferrante Ferranti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes architecte de formation et vous êtes photographe aussi. Vous enseignez aussi et vous êtes aussi, je dirais, l'auteur de nombreux livres, dont certains sur le mot Athos. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Donc, vous connaissez bien le monde chrétien, le monde du monachisme chrétien et en particulier orthodoxe. Je voudrais commencer cette émission par les raisons qui vous ont conduit à faire ce très beau livre-album, d'ailleurs, qui est très bien pour cette fin d'année, et sur la Turquie antique.
Alors, le livre est né d'une fréquentation très régulière de la Turquie, par les côtes, mais aussi par l'intérieur, à la suite de nombreux projets ou de voyages personnels. Et comme je suis un passionné de ruines de longue date, d'archéologie, j'ai fait des livres sur la Libye antique, sur l'Algérie antique, et j'ai pris conscience que ce patrimoine était totalement méconnu. Très peu de gens associent la Turquie uniquement à l'Empire ottoman et aux grandes mosquées, aux grands édifices, alors que c'est un palimpseste passionnant. C'est le lieu vraiment qui reflète tous les développements des grandes civilisations. Le livre met en valeur d'abord les textes. La rencontre avec l'archéologue Jacques Descourtils a été déterminante, puisque le jour où j'ai pu lui parler de mes passions, enfin de ma fréquentation régulière que j'évoquais, il m'a rappelé qu'il avait été l'archéologue de Xanthos, un des sites les plus importants de la Méditerranée. Et donc voilà, on a commencé à évoquer ce projet. Et puis surtout, j'ai fait appel à Sébastien de Courtois, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup et qui est spécialiste des chrétiens d'Orient et avec qui j'ai fait d'ailleurs à la fois des émissions et aussi des voyages en Turquie.
Je précise que Sébastien de Courtois est le producteur de l'émission Sœur, qui est donc diffusée en alternance avec la nôtre le dimanche matin. Donc nos auditeurs le connaissent aussi très bien.
Voilà, et donc à la suite de ces rencontres, donc Sébastien de Courtois certes connaît très bien toute cette partie de l'histoire, mais il vit en Turquie, donc il a une connaissance très large de tous ces sites. Il a d'ailleurs été d'un très grand conseil pour certains sites très peu connus, comme par exemple la Branda. Et voilà, donc nous avons décidé de faire ce livre à trois. Alors le livre se concentre, d'où son titre, sur Turquie antique, voyage en Turquie antique. D'abord le voyage, c'est-à-dire l'idée d'une pérégrination, de lieux qui sont tous très différents, malgré leur ressemblance. Ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont la plupart du temps en ruine. Et la civilisation, malheureusement, la vie, les a souvent quittés, sauf un ou deux lieux dont nous parlerons. Et nous évoquons bien sûr les Hittites, à l'intérieur des terres, Troie, qui avait quand même le fondement de toute civilisation en Méditerranée. Toute cette légende de la guerre a-t-elle vraiment eu lieu, mais ensuite ce rayonnement jusqu'à Rome. Et puis, le vif du sujet, c'est bien sûr la conquête d'Alexandre le Grand et la période romaine. Donc, tous ces sites qui, au fond, reflètent pleinement les occupations successives. Et nous terminons le livre sur la présence chrétienne. Alors cette présence chrétienne, elle est liée à des événements majeurs. Bon, le concile d'Éphèse, la présence d'événements qui vont permettre aussi de rattacher, d'amplifier pleinement, de ne pas se concentrer uniquement sur ces périodes absolument passionnantes qui ont laissé probablement les plus beaux vestiges.
Très bien. Alors, Turquie, évidemment, Turquie antique, c'est-à-dire l'Asie mineure, c'est-à-dire, je dirais même l'Asie, parce que tout début, enfin, dans l'Antiquité, quand on parle d'Asie, c'est l'Asie mineure.
Hein. Absolument.
Donc, la côte turque actuelle, avec, évidemment, les terres en profondeur, et ça va jusqu'à la Cappadoce. Donc,
oui. Donc
des terres qui, pendant l'époque chrétienne, que vous évoquiez tout à l'heure, ont fleuri vraiment et qui ont été au centre même du christianisme. On l'oublie parfois aujourd'hui parce que l'histoire du XXe siècle, évidemment, a changé beaucoup de choses. Mais nous, à cet endroit-là, il y a des hauts lieux, je dirais, de l'histoire du christianisme. Et je voulais, avant de venir au livre, que vous nous parliez un tout petit peu de vos impressions en arrivant dans ces lieux. Par exemple, vous avez parlé d'Éphèse. À Éphèse, il y a eu au Ve siècle un grand concile, au 431, qui a même fixé un terme très important pour les orthodoxes en particulier, enfin pour le christianisme, c'est le terme de Théotokos, hein, la mère de Dieu. Voilà. Et après cette époque-là, on voit fleurir partout dans le monde chrétien de l'époque des églises consacrées à la Vierge Marie, à la Mère de Dieu, parce que justement le Concile d'Éphèse avait... Donc Éphèse, on y est d'ailleurs dans votre livre, vous avez... Alors quelle est l'impression quand on arrive à un lieu, et aussi des lieux qui parfois sont des lieux connus par l'Antiquité, mais qui ont été transformés, je ne peux pas dire, mais en tout cas reçus, hérités et enrichis par le christianisme?
Alors déjà, je vais revenir très très rapidement sur la structure du livre. La présentation de Sébastien de Courtois est une présentation sur justement la richesse de tous ces sites. On montre que finalement, il n'y a pas de cloisonnement dans des périodes. Un site n'est pas que grec ou que romain ou que chrétien. Généralement, enfin surtout les sites majeurs bien évidemment, pourquoi ? Parce qu'ils sont tournés vers la Méditerranée et qu'ils ont eu des influences à toutes les époques. Il y a eu des grands ports, il y a eu des mouvements, il y a des gens qui venaient de tous les pays, etc. Ensuite, il y a un regard d'archéologue qui, lui, se penche sur 7 sites majeurs pour que nous puissions comprendre que, aussi bien Smyrne, aussi bien Éphèse, bien évidemment, mais aussi Pergame, Aphrodisias, etc., sont des lieux où toutes les périodes, c'est lui qui a été habité très très tardivement. On ne veut pas les enfermer dans le 1er siècle ou le 2e siècle ou avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. C'est véritablement des lieux qui ont engendré des couches successives de civilisation. Et quand moi j'ai découvert ces sites par... Il faut rappeler que je suis en effet, vous l'avez dit, architecte de formation, mais je suis avant tout voyageur et passionné de ruines. Je ne suis pas ni vraiment un théologien, même si la théologie me passionne, ou même tout simplement un historien de l'architecture. Je vis les sites aussi avec mes expériences sensibles. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est de lire des traces, puisque le rôle du photographe passionné d'archéologie, c'est de déchiffrer les signes qui sont là. Et dans tous les sites, je pense à Cnid, par exemple, que nous avons choisi comme un site majeur, Cnidos, où il y avait la fameuse Vénus de Praxitèle, eh bien, à 50 mètres de cette espèce de tholos, comme ça, qui aurait été le lieu du sanctuaire, eh bien, vous avez encore les restes d'un chancel et vous avez des dalles avec des graffitis ou des croix chrétiennes. Donc, on ne peut pas dissocier. Et c'est ça qui en fait la richesse. Pour moi, ce livre, j'ai insisté pour qu'il soit réellement le palimpseste au sens premier. C'est-à-dire qu'on soulève une pierre, on trouve une ancienne civilisation et on lit ces sites dans la continuité. Et donc, en plus, ces lieux sont déserts. La Turquie antique, à part Éphèse, parce qu'aujourd'hui, il y a les bateaux de croisière qui débarquent avec des milliers de gens, mais une fois que les visiteurs sont partis, on est tout à fait seul dans ces ruines. Et Éphèse est aussi, par exemple, on nous le montre dans la description du site, mais il y a 2 sites. Il y a vraiment la ville qui était un ancien port, et la ville qui s'est déployée autour, avec l'Agora et autres, mais qui était la mer s'est retirée. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens vont aussi visiter, bien sûr, la partie chrétienne, avec la basilique de la Vierge et la basilique de Saint-Jean. Donc, je crois que les gens sont très sensibles à cette appropriation, disons, bon, je ne sais pas si on peut parler de syncrétisme, mais disons d'assimilation de toutes les croyances profanes vers les croyances, vers les lieux du sacré. Et je terminerai aussi par une notion très importante qui aide à mieux comprendre ce territoire, c'est la présence des lieux de culte, quels qu'ils soient. Avec, bon, en Grèce, bien sûr, c'est Delphes, avec le culte d'Apollon, et la Pythie. Mais il y avait Cum pour les Grecs qui sont partis vers l'Italie. Mais il y avait un lieu très, très important sur lequel nous mettons beaucoup l'accent, qui est Didyme, qui était le temple d'Apollon. Et donc, quand j'ai compris ça, quand j'ai vu qu'au fond, les navigateurs, ou la présence même de tous les habitants dans ces cités, avaient besoin d'être attachés à des lieux de culte. Et c'est ce qui explique la présence si forte des lieux chrétiens ensuite. Parce que les gens ont, à partir de l'évolution, évidemment, après le concile, enfin, d'abord, vous l'avez parlé d'Éphèse, mais même depuis avec l'acte de Constantin, qui va finalement établir véritablement la chrétienté dans tout l'Empire romain, il y a le christianisme s'implante, mais les lieux qui existent vont se transformer naturellement, dirais-je, enfin, simplement, en lieu de culte et d'adoration. Donc ces terres-là liées au voyage, au pèlerinage, doivent être lues et entendues comme un souffle d'inspiration, comme des lieux un lieu d'attrait, un lieu d'appel, dirais-je, pour la spiritualité.
Et évidemment, ces villes sont devenues après des sièges d'évêques et on a le long de l'histoire et jusqu'au XXe siècle encore des évêques d'Éphèse, bien sûr, de Pergame, de Xanthos, comme vous avez dit, etc., de Myre. Ça existe toujours, on va en parler tout à l'heure. Alors, vous parliez aussi de ce côté palimpseste. Alors, palimpseste, c'est les livres qu'on a grattés pour effacer et pour réécrire dessus. Donc, il y a plusieurs strates d'écriture, plusieurs strates d'information aussi. Et c'est ce côté-là dont vous parliez. que l'archéologue d'ailleurs peut étudier de manière précise. Et parfois on a ça de manière très visible, hein, un bâtiment construit sur un autre ou à partir d'un autre. Alors, on va peu à peu nous diriger vraiment vers les lieux chrétiens. Est-ce que d'abord, il y a des régions qui sont plus marquées par la présence des monuments chrétiens, parce qu'évidemment, toutes ces terres étaient chrétiennes pendant très longtemps, mais des monuments chrétiens, étant donné que cette région est devenue dans l'histoire également une région d'une forte présence du monachisme.
Alors, c'est très surprenant. Moi, j'ai la chance de pouvoir aller tous les ans de naviguer le long des côtes turques. C'est ce qui a expliqué. Alors, les sites, ils sont généralement dans la terre, à part ceux que j'ai évoqués comme Didyme ou éventuellement Éphèse. Mais la côte est très habitée. Donc, la côte la plus sauvage et surtout la plus habitée par les moines, liée justement aux difficultés de l'isolement, même à l'époque, hein, ce qui faisait que les moines pouvaient être tranquilles. Et la côte est constellée, et pourtant, tu sais qu'elle est, elle est austère, hein, ce sont des falaises, on n'a pas du tout en Turquie les plages de Grèce ou même de la Méditerranée. Et ce sont donc des monastères isolés, très souvent, situés dans les hauteurs. On pense beaucoup, beaucoup, par exemple, à la pointe du mont Athos, parce que pour ceux qui connaissent, il y a donc ces monastères qui sont à flanc de montagne, hein, qui expliquent justement qu'un moine, ça c'est le propre du monachisme chrétien des premiers siècles de notre ère. Et donc, parfois, on découvre des ruines stupéfiantes. Par exemple, il y a un monastère, il est très difficile d'accès, s'appelle Afculé, et la façade est entièrement construite de cellules comme ça qui ont vu sur la mer en permanence. Et bien sûr, ces structures sont très ruinées, mais il y a encore des fresques, il y a des vestiges comme ça qui prouvent cette présence. Après, sur cette côte-là, il y a un lieu très fréquenté par les personnes qui font du bateau, qui est Gemiller Adachi, donc le Gemiller Island, et qui est un lieu absolument stupéfiant, puisque là ont vécu pendant à peu près 9 siècles uniquement des moines. Et il y a un corridor qui partait de la mer, qui permet aux pèlerins d'accéder jusqu'au sanctuaire, abrité, comme si c'était un passage secret, et il est très bien conservé encore aujourd'hui, mais on voit des citernes, et on voit beaucoup, beaucoup, évidemment, de vestiges, il y a plusieurs églises, des cryptes parfaitement conservées. Donc, toute cette côte-là est vraiment constellée de lieux liés au choix même des ermites de vivre en communauté et très isolé, puisqu'en effet, les côtes étaient difficilement accessibles. Les ports sont très éloignés. On n'a pas de fréquentation régulière. L'exemple qui résume, au fond, toute cette présence chrétienne, puisque c'est le seul lieu très vivant encore aujourd'hui, c'est bien sûr Myra. Myra, parce que c'est le lieu donc de Saint-Nicolas, et là, on voit que ces lieux-là sont vivants.
On va y revenir, merci beaucoup. Alors, une pause maintenant, on va dans l'église. Alors, évidemment, on va entendre un chant dans la très grande tradition constantinopolitaine. Nous sommes ici sur les terres du patriarcat œcuménique. Et c'est le père Georges Tsétis, grand protopresbyte du patriarcat œcuménique, qui chante un extrait de la liturgie de Noël.
Christos genate doxasate, Christos ex urnona pontisate,
nous étions vraiment à Constantinople, hein, dans la très grande tradition du chant constantinopolitain, byzantin bien sûr, le père Georges Tsitsis qui interprétait un extrait des Katavassis de Noël, donc... Et nous sommes en plein dans l'actualité aussi liturgique. Nous revenons à notre discussion avec Ferrante Ferranti sur le livre Voyage en Turquie antique paru cette année chez Actes Sud. Alors, vous parliez tout à l'heure de Myre, la patrie, je dirais, de Saint-Nicolas, ou la patrie ecclésiastique en tout cas, et puis le lieu de culte voué à Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, un saint extrêmement apprécié et vénéré, tant en Occident qu'en Orient. Santa Claus, on dit pour Noël, mais c'est bien lui. Hein. Alors, mais pour les orthodoxes aussi, un saint très important. Et donc à Myre, il y a cette fameuse cathédrale et ses restes. Alors, je voulais vous demander que vous parliez de ça de manière un peu forte, comme vous l'avez fait quand nous préparions cette émission, parce que c'est un lieu, un haut lieu, un pèlerinage très important pour le monde orthodoxe.
C'est probablement le lieu le plus important de toute la Turquie. J'entends par là qu'en effet, beaucoup de lieux sont en ruine, mais j'étais frappé dès ma première visite, il y a de nombreuses années, de voir affluer tous ces pèlerins. Et je ne comprenais pas trop, parce qu'en effet, les visiteurs, surtout en été, on imagine que ce sont uniquement des touristes, alors que là, ce sont de vrais pèlerins. Ils viennent de tout le monde orthodoxe, et ils sont d'une ferveur, d'une très grande ferveur. Alors, il y a un lieu en ruine à côté, il y a donc les vestiges, la ville, le culte n'est pas né de rien. Il y a un magnifique théâtre, très bien conservé, il y a des tombes, voilà, donc un lieu qui, lui aussi, appelait la présence d'abord de grands saints, à l'époque chrétienne, et byzantine, et aussi, surtout, aujourd'hui, probablement l'édifice le mieux conservé de toute la Turquie. C'est qu'en fait, c'est une vraiment toute une... On lit très bien le narthex, on lit très bien l'abside, et les gens donc prient, et il y a des mosaïques très belles, et surtout des fresques. Donc j'ai insisté, véritablement, pour que dans ce livre, on puisse mettre l'accent à partir de cet exemple-là. Donc il y a des représentations de l'architecture, mais aussi des fresques, qui sont les seules qui persistent avec leur éclat aujourd'hui dans cette région. Et j'y ai vu, au fond, une continuité avec on a l'impression que les gens qui viennent ici ne voient rien d'autre. C'est très, très touchant, comme tous les grands lieux de pèlerinage. Et je me suis toujours posé cette question, au fond, comment aujourd'hui maintenir cette tradition quand on voit, par exemple, encore en Cappadoce, les lieux qui étaient aussi des très, très grands lieux de la chrétienté, où les gens ne voient que le côté folklorique, mais oublient que l'esprit souvent habite les lieux. Ça, je crois que c'est fondamental. Enfin, tout le travail que je fais sur les ruines est lié. J'ai d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « L'esprit des ruines ». Et là, nous sommes probablement dans l'exemple le plus fort de vie et de souffle, voilà, d'inspiration dans cela. Il y a un autre exemple très intéressant qui, lui, malheureusement, n'est pas vivant comme il pourrait l'être. C'est le martyrium de Philippe à Hierapolis. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde va visiter les fameuses cascades, les chutes calcaires sublimes de Pamukkale. Donc, les gens viennent se baigner, etc. Alors qu'à proximité, il y a un édifice unique dans toute l'histoire de l'archéologie, hein, qui est donc un martyrium de martyr Philippe, qui était un des 12 apôtres du Christ, et on a une structure octogonale unique avec des chapelles qui sont à chaque angle, et on avait donc probablement un immense sanctuaire, et ça a été une des révélations pour moi les plus fortes de cette tradition. Et je pense qu'aujourd'hui, à côté, on a des églises, on a des vestiges bien sûr d'abside ou de mosaïques. Et c'est très touchant de voir cette superposition, de voir que les mosaïques anciennes qui mettaient aussi bien... Apollon était probablement le dieu le plus vénéré, et bien sûr Artémis, sa sœur jumelle, et qui finalement, on le sait aujourd'hui, a probablement nourri dans cette Asie mineure le culte de la Vierge. Très souvent, les édifices se sont transformés, comme c'est le cas à Éphèse en particulier, pour que cette chrétienté puisse trouver encore aujourd'hui une intense ferveur.
Elle en voit bien qu'au plan social et au plan, je dirais, de la réception par les gens, évidemment, on peut passer d'une foi à une autre, tandis qu'au plan, évidemment, dogmatique de l'enseignement, il y a des différences énormes, enfin, qui n'ont rien à voir. Le christianisme est quelque chose de complètement nouveau, mais évidemment, la dévotion des gens se transfère, je dirais. Alors, merci beaucoup. Un mot peut-être aussi sur ce qu'on appelle Anatolie. Je m'inspire aussi du texte que Jacques de Courty a fait pour la fin de votre très beau livre. L'Anatolie, vous la connaissez Fier.
Oui, alors moi j'aimerais maintenant, c'est mon prochain voyage, aller au lac de Vannes, qui est probablement, là, parce que je connais bien l'Arménie, la Géorgie, et je voudrais aujourd'hui trouver finalement ce qui sont les extrêmes de l'Anatolie, qui serait le prolongement d'une découverte comme celle-ci. Mais c'est une terre de rencontres, c'est une terre de culture, et c'est avant tout, je crois, qui a permis la rencontre de tant de civilisations passionnantes, qui sont les nôtres.
Alors, le texte de la fin s'appelle « La fin d'un monde ». Jacques de Courty trouve que visiter cet endroit, c'est aussi visiter un endroit qui a vécu dans l'histoire de manière très forte, mais qui est en train un peu de partir. Mm-hmm. Et ce livre nous aide à le faire. Alors, je lis ce dernier paragraphe qui résume très bien cette pensée. « Visiter l'Anatolie constitue un voyage dans le temps, au milieu de vestiges de peuples et de civilisations particulièrement variées. » Cette épaisseur historique inégalée explique l'intensité des recherches archéologiques dont elle est le théâtre, mais le voyageur peut, de façon très légitime, se contenter de savourer la poésie de ses paysages et la beauté nostalgique de ses ruines. Et donc on voit bien que le voyage qu'on peut faire en Asie mineure actuelle ou la Turquie actuelle est un voyage d'abord à des lieux, mais également dans l'histoire.
Oui, parce qu'aujourd'hui la Turquie est au cœur de toutes les préoccupations, leurs liens avec la Syrie, enfin tout ce qui finalement a des causes aussi. Je ne m'engage pas du tout de façon politique, mais on sait très bien que ces territoires, moi je suis très attaché à la Syrie et qui est un prolongement bien sûr de la Turquie. Il y a Antioche qui est à mi-chemin, donc un des plus hauts lieux de la chrétienté. Et je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas mettre l'accent même sur cette richesse des civilisations et se fermer uniquement sur l'occupation ottomane et enfin sur la présence ottomane et sur notre actualité aujourd'hui qui fait de cette région qui est le théâtre de tant de drames et de
là aussi c'est tensions. Le côté palimpseste, on voit les civilisations qui se succèdent,
l'histoire continue au fond.
Tout à fait. Alors c'était Turquie antique, voyage plutôt en Turquie antique, le titre du livre paru en 2019 chez Actes Sud. Ferrante Ferranti, un grand merci. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Bastien Varigaud. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.